racine de Talamarante. À Talamarante vivait une faiseuse d'anges qui habitait sur les flancs d'une montagne racine, résidu gigantesque d'un colossal palétuvier que l'on avait coupé quelque 3000 ans plus tôt. Cette vieille personne que l'on nommait Nola pratiquait la quenouille aussi bien que l'ensorcellement et portait à son actif pas loin d'une dizaine de milliers de petits êtres qu'elle avait refourgués au tréfonds du monde sous d'innombrables entrelacs de racines et de cailloux, enfouis dans les entrailles de la terre, fossilisés parmi les sédiments, réduits en cendres ou en paillettes, et dont les petites âmes, libérées, avaient rejoint par ses mains les hautes cimes de la voûte céleste. La vieille Nola savait parler l'écureuil, le buffle et le sanglier, partageait souvent le fruit de sa pêche avec les martins pêcheurs, et n'hésitait pas à faire quelques kilomètres de plus pour aller porter de temps en temps un panier de framboises d'olicantes au vieux pasteur de Sainte-Luce. Dans la vallée de Talamarante, chacun savait que la vieille femme pouvait autant apporter le réconfort que rendre à la faucheuse ce qu'elle lui réclamait. Or, un jour, une très jeune fille vint lui rendre visite sur les sommets de la haute et noire montagne racine. Elle toqua à la porte de la cabane en bois. La vieille Nola vint lui ouvrir et la fit s'asseoir près du feu.
« Pose tes mains sur tes genoux et parle, » lui dit la vieille, « car ici, point de chichi. »
La jeune fille, aux boucles d'or et aux mains frêles comme des amandes effilées, se réchauffa à l'âtre en exposant sa requête. « Très chère et vénérée Nola, vois-tu mon ventre? Vois-tu mes hanches? Vois-tu l'infâme petit démon qui vient enfler en moi alors qu'il est le fruit du verger de la honte? Sens-tu sous ta main mon ventre rond de déshonneur? Petit bourgeon dont je ne saurai jamais s'il est l'engeance d'un porc ou celle d'un vagabond, moi qui n'ai même pas vu le visage des trois bûcherons lorsqu'ils me dévêtirent dans la neige à l'encolure des six baudets. Je t'en supplie, ma bonne, fais quelque chose pour moi car le forgeron mon père me bannira et pire encore, me reniera. » La vieille était embarrassée. Elle atteignait sa 112e année et elle s'était jurée devant l'ordre des sages-femmes que cet hiver serait son dernier.
« Eh bien, ma fille, me voilà désœuvrée. Ma tâche touche à sa fin car l'hiver vient d'entrer. Je ne puis plus exercer depuis la dernière lune. » Tu m'en vois bien navrée. »
La pauvre fille repartit les mains sur le ventre, transie et la pierre dans l'âme. Quelques nuits passèrent, laissant leur chevauchée d'étoiles galoper sur les champs célestes, brassant les songes de Talamarante et de ses habitants. La vieille, qui avait mal dormi, tourmentée d'un drôle de poids sur la conscience, prit le chemin de la crête au lever du jour pour se changer les idées. Elle aperçut la très jeune fille, assise à un carrefour, la tête entre les mains, pleurant à chaudes larmes.
« eh bien, petite, as-tu toujours le ventre rond? Personne alentour n'a pu te soulager de ton pesant fardeau. »
La jeune fille était alarmée, au bord du gouffre, les yeux rougis. Elle se jeta dans ses bras.
« Allons, allons, vois-tu, il y a peut-être une solution. Je ne pourrai définitivement pas alléger tes douleurs, encore moins faire envoler ton petit moineau indésiré. En revanche, il y a quelque chose que tu dois essayer en dernier recours, mais il te faudra du courage. »
La jeune mère écarquilla ses lèvres et essuya ses yeux.
Il y a, à 7 lieues d'ici, un arbre gigantesque, dont on dit qu'il est issu de la lignée des grands arbres de Bramastère, tel celui qui fut coupé il y a 3000 ans et dont a persisté la racine sur laquelle j'habite. Dans cet arbre vit un loup. Disons plutôt une bête, car elle n'a ni mâchoire ni œil. Lorsque le jour s'efface et que la nuit esquisse ses premières traînées de pourpre noire, tout animal, s'il se trouve dans le giron de ses racines, se voit enlacé par 1000 lianes de lierre sauvage. Alors, une fois la nuit tombée, la bête sort et dévore tout ce qu'elle peut par l'unique orifice qu'elle porte au ventre. Il se peut très souvent qu'elle fasse exception des femmes enceintes. Mais si par mégarde le lierre faisait sortir l'enfant et accoucher la mère, le nouveau-né serait à coup sûr la pâture du monstre. C'est bien le seul endroit où tes pieds peuvent te rendre au vu des mains calleuses dont le destin t'en sert. La jeune fille sanglota, remercia la vieille et prit la route. Il lui fallut gravir quelques monts et découvrir quelques merveilles avant d'arriver à bon port et d'apercevoir enfin au loin un arbre colossal couvert de lierre. Lorsqu'elle s'approcha de l'arbre aux racines hautes comme des tours de château et larges comme des fleuves, elle se vit instantanément saisie par des lianes qui glissèrent le long du tronc jusqu'au rhizome démesuré du palétuvier, la ligotant elle et son ventre de tout son torse. Ses bras fins et ses jambes gracieuses furent immobilisées avec délicatesse, se retrouvant plaquées au pied d'une racine, haute comme 16 autruches de kaffir. Elle eut à peine le temps d'un soupir que la nuit tomba. Hélas, le lierre n'avait pas serré assez fort le ventre de la fille pour la faire accoucher de la misère de ses entrailles, et elle commença à se demander sérieusement si la bête ne ferait pas d'elle un repas de premier choix. Puisque les serveurs du destin apportaient à la bête un mets raffiné sur un plateau doré, ainsi que la coque maternelle non moins comestible qui l'enrobait, la jeune fille eut toutes les raisons de sentir monter la peur au ventre et crut qu'elle en perdrait d'elle-même son enfant tant la frousse la gagnait. Elle entendit la bête sortir du tronc, venir la frôler dans un ronronnement proche d'un tremblement de terre. Une odeur pestilentielle faillit la faire défaillir, mais la bête ne la toucha pas et lui dit
« Tu seras parfaite au 9e jour. Il serait dommage de gâcher la délicieuse noisette que tu caches sous ton abdomen. Je reviendrai tous les soirs pour en apprécier la chair palpitante qui s'engraisse en toi et saliver au festin qui s'offrira quand paraîtra la nouvelle lune. »
La déshonorée fille mère tressaillit à ces mots et déversa sous elle tout ce que la nature pouvait faire couler de ruisseaux intimes. Passèrent ainsi 3 jours et 3 nuits, chaque nuit étant rendue terrible par les visites du monstre immonde et des promesses qu'il tenait. Au 4e jour passa un beau, jeune et brave chevalier, qui avait égaré sa troupe durant la chasse. Il aperçut la belle, qui n'en croyant pas ses pauvres yeux, héla le prince à demi-voix chevrotante. Les larmes coulaient sur ses belles joues fines et rosées. Le chevalier s'énamoura de la pauvrette et saisit son épée pour la défaire de ses liens lorsqu'elle l'arrêta net. « Non ! Beau chevalier, ne tranche pas le lierre maintenant. Il pourrait m'étrangler et je perdrai la vie. Attends plutôt le soir qu'il s'attendrisse et qu'il se fasse empourpré de sommeil par la chevelure de Morphée. » À ces mots, le chevalier se logea dans un buisson, attendant que les serviteurs de la nuit portent à la pénombre ses grands manteaux. Il s'avança alors dans l'obscurité, mais au premier coup d'épée portée, la bête sortit de sa tanière et défigura le preux vaillant, l'écorchant vif sous les yeux rougis de larmes de la chétive prisonnière dont les viscères ne firent qu'un tour.
« Ne joue pas à cela !» lui dit le monstre.
«
je ne voudrais pas prendre un repas prématuré. »
Et la chose sans yeux ni mâchoire emporta l'homme en le tirant par l'unique orifice de son ventre, le traînant jusqu'à son antre. La jeune fille tomba en syncope lorsqu'elle perçut les bruits implorants du chevalier à demi-mort dont la bête finissait d'achever les misères. Fort heureusement, le soleil n'abdique jamais face à l'adversité, pas même devant la nuit elle-même, et daigna à nouveau le lendemain, matin, éclairer d'un jour neuf le visage de la jeune fille. La nature resplendissait. Le matin faisait les yeux doux à la rosée qui elle-même câlinait les tiges et les bambous. Passèrent encore 3 nuits et 3 jours. La lune grossissait autant que l'anxiété de la captive et atteindrait prochainement son apogée culminant. Au 4e jour passa un berger qui avait égaré son troupeau. À la vue de la belle, il s'extasia. S'approchant d'elle prudemment, ligoté, endormi, il tenta de son sceptre pastoral d'écarter les liens qui cernaient son corps. Mais à la première embardée, le lierre se resserra, réveillant la jeune fille au visage livide qui hurla, effarée. « Non, berger, ne sois pas imprudent. Les lianes pourraient me tuer et te mettre sous la dent du tyran de ces lieux. Va donc te camoufler de branchages et de buis. Tu reviendras, sournois, me détacher dans la nuit. » Et c'est sans trop comprendre de quoi parlait la fille que le pâtre enjamba la futaie d'un bosquet. Alors que la nuit venait tout juste de sonner au portail du crépuscule, le berger s'avança et planta son bâton dans le lierre entrelacé. Mais une fois encore, la bête se réveilla et fit en un instant une bouchée du jeune guide, lui dérobant la tête et jusqu'à son bâton. La jeune fille, déjà très affaiblie par tant de prouesses, n'osa même pas regarder la bête qui s'approchait de son minois.
« Peut-être as-tu la chance unique et rare d'être un mets prometteur, car cette nuit encore offrira à tes jolis petits yeux la ronde des étoiles. » Tâche de ne pas me faire faux bond une 3e fois, il en coûterait à ton cou, et tes mains trembleraient, bel ange, bientôt, bien grasse. »
La jeune fille ne ferma plus un cil. Pendant les 3 nuits et les 3 jours qui suivirent, elle divaga, crut voir des fées, entendit des elfes, balbutia quelques mots avec les plantes, tenta d'attraper du bout des lèvres quelques asphodèles portées par le vent, goba 2 ou 3 moucherons imprudents, tendit la langue à la moindre poussière volante. Le dernier jour, précédant la lune pleine, elle crut apercevoir une forme humaine. Était-ce un nain? Était-ce un troll? Ses yeux troublés par la fatigue et les pollens discernaient mal l'individu. Se raviva en elle le faible flambeau de l'espérance. Mais quelle ne fut pas sa déception quand le sauveur s'approcha d'elle. Il s'agissait d'un homme tronc qui arpentait la forêt de manière sauvageonne, palpant de ses 10 phalanges les talus de bramaster, habillé de guenilles et barbu comme un épi de blé. Quand il s'approcha de la jeune femme, sortit de sa bouche un jargon caillouteux et incompréhensible, dont elle ne sut qui d'Adam ou d'Ève avait pu engendrer un tel hurluberlu. Malgré ce grommellement, elle lui suggéra de prendre ses jambes à son cou, puisque le danger pouvait à tout moment faire feu de tout bois. L'éclopée, sans mot dire, s'éloigna dans le bois et acheva de noyer dans un soupir les derniers espoirs d'Aldaé. Cette dernière n'avait d'ailleurs plus beaucoup d'espérance quant à sa destinée, et se préparait déjà à écrire ses dernières volontés sur le haut de sa cuisse avec son sang, du seul doigt vaillant que ses liens avaient épargné. Quand le soleil rompit son pacte illuminé, on fit venir les astres pour le mettre aux écrous et pour le faire dormir au cachot le temps d'une nuit. Surgit alors des bois sombres le petit éclopé, qui grimpa en silence sur le tronc gigantesque du palétuvier. Il jeta un caillou sur un nid de pervenche dont la marmaille affolée se mit à piailler en tous sens. Le raffut fit sortir la bête affamée, éveilla le lierre qui se crispa sur Aldaé, pressant son ventre qui, une fois ébranlé, perdait déjà les os. Soudain le bébé montra sa tête et atterrit sur la terre meuble en hurlant à la lune au point de surprendre les lianes qui libérèrent la paysanne. La bête fonça sur elle et son engeance, mais l'homme tronc émit un cri d'oiseau qui rameuta toute la faune volante qui existait en ce bas monde. Le monstre sans yeux et sans mâchoire se trouva assailli par mille serres et mille becs pendant que l'homme, la femme et l'enfant prenaient leur clic et leur claque comme ils le pouvaient. Une fois à quelques lieues de l'arbre géant, ils entendirent la bête hurler, lutter à grands coups de griffes et chuter de très haut dans ce qui semblait un gouffre. Un cri d'agonie clôtura son règne d'ogresse, donnant un écho dans toute la vallée. Une fois sain et sauf, et hors de portée de tout inconvénient, on déposa l'enfant sur un tapis de mousse, et l'homme tronc fit comprendre à la douce éplorée qu'il fallait maintenant honorer sa bravoure, et s'appliqua dans son jargon pour demander sa main. La jeune fille hésita, car devant un tel être, il fallait toutefois beaucoup d'abnégation. Elle accepta tout de même, et l'hideux mais vaillant Kudjat lui passa la bague au doigt, jurant qu'à l'enfant, il dédierait son âme. Lorsqu'elle l'embrassa, avec dégoût, pour la première fois, le curieux sauveur sans jambes se transforma en Béla très lancé, et faisant désormais une tête de plus qu'elle, se pencha pour lui rendre son tendre baiser. Il expliqua alors à sa femme qu'il y a de cela fort longtemps, sa mère avait voulu se débarrasser de lui alors qu'il était encore une minuscule pointe dans ses entrailles, et qu'une femme, une sorcière de ventre rond, avait tenté maladroitement de le faire partir. Mais la vieille femme, qui n'était pourtant pas manchotte, avait raté son coup, laissant le fœtus à demi-mort ou à demi-vivant, entre ciel et terre, entre le monde des anges et l'asile d'ici-bas. Alors le destin avait tranché, en lui donnant un corps, mais doté sous la ceinture de deux moignons seulement. La fée Providence, fidèle compagne du destin, avait eu la bonté de lui promettre des jours meilleurs s'il rencontrait l'amour et sauvait l'être aimé. Il gagnerait son cœur et deviendrait un homme, un véritable beau prince pour toujours et à jamais. Surgit alors des bois la vieille et sage Nola, qui s'était décidée à franchir la montagne pour savoir si la fille avait pu se faire accoucher tant bien que mal au pied du grand palétuvier. Elle reconnut alors, comme une réminiscence, cet ancien petit ange qu'elle avait piteusement laissé entre deux mondes, s'approcha très émue de cet homme accompli et l'embrassa sur le front pour bénir son union. Certains petits anges de Talamarante s'amusent encore à attraper les asphodèles qui flottent dans la brise printanière. On dit que c'est l'effet du souffle fantomatique du monstre qui dort encore au fond du gouffre. Swinging devil rendez-vous, bâton dancing de doo. Voodoo cancan valet à vous, au Belleville soin j'ai rendez-vous. Thank you.